Ici, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et nous prenons aujourd'hui la direction de l'Éthiopie, où chaque année près de 300 investisseurs étrangers, des Indiens ou des Saoudiens notamment, cherchent à obtenir de la terre avec un objectif: cultivé à grande échelle des palmiers à huile, du riz ou encore du maïs. Qui sont ces nouveaux arrivants? Quels bénéfices les paysans locaux et l'État éthiopien peuvent-ils espérer tirer de leur présence? Cette politique d'ouverture suscite en Éthiopie de nombreuses questions. Grand reportage dans la région de Gambela, dans l'ouest du pays. C'est avec Marie-Pierre Olfond.
En Éthiopie, le problème, ce n'est pas la terre, c'est la politique du précédent gouvernement qui avait une mentalité socialiste et qui n'autorisait pas le secteur privé à investir dans le développement.
C'est Gaïa Bébé, producteur-exportateur de fleurs et légumes.
Si vous allez à Gambela, Gambela ne s'est jamais développé. Si vous allez à Harar, ou à l'est du pays, au sud, au nord, vous verrez que l'Éthiopie a des millions d'hectares qui ne sont pas utilisés. Être un pays pauvre et avoir de la terre, ce n'est pas compatible. Donc moi, en tant que particulier, ça fait 15 ans que je dis à mon gouvernement, s'il vous plaît, invitez les étrangers, invitez les gens d'ici. Nous avons de l'or entre nos mains, mais nous ne savons pas comment utiliser cet or contre notre pauvreté. Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons la main-d'œuvre. Nous devons convertir cette terre en argent.
La formule choc de cet investisseur éthiopien illustre la nouvelle politique d'Addis Abeba: attirer les étrangers sur les terres vierges du pays pour doper l'économie. Exemple, à Gambela, à l'ouest du pays, tout près de la frontière soudanaise. Où est-ce qu'on va maintenant ?
Sur le site du projet de Karuturi, qui est à Elia, à environ 41 km de la ville de Gambela. La route est en construction, il n'y a que la première couche, et à cause des pluies et du passage des véhicules, elle est abîmée.
Ashok Sharma est porte-parole de la firme indienne Karuturi. Décontracté et jovial, c'est lui qui conduit les visiteurs jusqu'aux plantations. Plus qu'un porte-parole, Mr. Ashok, comme on l'appelle ici, est l'homme qui a incité le dirigeant du groupe, un homme d'affaires de Bangalore, à investir dans cette plaine verte et fertile.
So far as the soil, first of all, secondly, all the metallurgical data required for a good crop.
Il y a le sol et aussi toutes les bonnes conditions pour obtenir une bonne récolte. Trouver beaucoup de terre à un même endroit, c'est difficile, mais ici c'est possible.
Il n'y a plus assez de terre en Inde, c'est pour ça que vous êtes ici ?
On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de terre, mais faire le choix d'avoir de grands terrains, ce n'est pas possible en Inde.
Est-ce que c'est aussi parce que la main-d'œuvre et la location des terres sont bon marché?
Non, ces facteurs sont secondaires. Quand nous avons voulu nous lancer dans l'agriculture, nous avons d'abord étudié les autres points. C'est pour ça que nous sommes venus ici.
Le groupe indien a vu grand. Il vient de louer pour 50 ans 300 000 hectares de terres cultivables, soit une surface immense d'environ 30 km sur 100. Les travaux de débroussaillage viennent de commencer. Aujourd'hui, les premiers plants poussent dans une pépinière. Visite avec Sachi Kumarner, directeur de la ferme agricole du groupe Karuturi.
This is actually oil palm nursery. From here only we are started right from germination and
ici, c'est une pépinière de palmiers à huile. Pendant 9 mois, tous les plants restent là. D'autres sont déjà prêts pour être transplantés. Petit à petit, tous les arbres seront acheminés vers les champs.
Start shifting to field operation.
And so what do you plan to produce here in this? Qu'est-ce que vous avez l'intention de produire ici?
Des
palmiers à huile, c'est notre objectif sur 20 000 hectares. 60 000 hectares de bari, c'est-à-dire du riz, et 110 000 hectares de maïs.
Le groupe indien fait figure de pionnier à Gambela. Mais aujourd'hui, les Saoudiens sont aussi entrés dans la danse. La société Saudi Star du richissime Mohamed Al-Hamoudi a obtenu 10 000 hectares pour un projet de riziculture. Selon les autorités locales, 187 investisseurs ont misé sur des projets agricoles dans la région. Parmi eux, seulement 5 sont étrangers, mais ce sont eux qui occupent la plus grande surface. Si Gambela et plus largement l'Éthiopie attire, c'est en partie pour les tarifs pratiqués. L'équivalent de 7 euros pour un terrain standard et 10 euros pour une terre irriguée. Karou Touri est arrivé avant l'adoption de ces tarifs-là et paie moins d'un dollar par an et par hectare. L'allocation n'est pas une priorité, justifie Esaias Kebede, directeur du Bureau pour les investissements au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.
You know, the land rent, it is not our target.
Vous savez, le prix de la terre, ce n'est pas notre priorité. Notre objectif, c'est le développement. L'argent qu'on récupère auprès des investisseurs, ça ne représente pas grand-chose. Mais le but de notre gouvernement, de notre pays, c'est le développement. Ce peu d'argent-là, il va aux populations, aux communautés locales. Nous avons fixé un prix raisonnable pour la terre et nous sommes dans une logique gagnant-gagnant.
Dessalène Ramato est chercheur au Forum des sciences sociales d'Addis Abeba et spécialiste des questions de développement rural. Pour lui, c'est la concurrence des autres pays qui incite l'Éthiopie à baisser ses prix.
Il ne faut pas oublier que cette nouvelle politique d'ouverture des terres africaines aux investisseurs étrangers est pratiquée dans plusieurs pays du continent, au Soudan, en Tanzanie, dans une certaine mesure au Kenya. Plus au sud en Zambie et aussi dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai l'impression que le gouvernement se sent en compétition avec ces autres pays. C'est pour ça qu'il met en place un dispositif attractif pour les investisseurs. Il y a en particulier une compétition avec le Soudan qui est en train de distribuer d'immenses étendues de terre de l'ordre du demi-million d'hectares parfois. En fait, dans un document produit par le gouvernement que j'ai pu voir, il est écrit « Nous sommes les moins chers, nous avons des prix plus compétitifs que ceux des autres pays, donc il y a bien une sorte de compétition et dans ces circonstances, ce sont les investisseurs qui donnent le ton et les gouvernements ne font que danser au rythme des investisseurs. »
Comme d'autres, le chercheur n'est pas contre l'arrivée d'investisseurs étrangers, mais il s'interroge. Sous le régime précédent, les grandes exploitations ont été un désastre environnemental. À Gambela, la terre louée par le groupe indien jouxte le fleuve Baro, un des affluents du Nil. Karou Touri entend puiser dans le cours d'eau pendant la saison sèche, soit environ 2 mois par an. Or, le partage de la ressource en eau est la clé de l'équilibre entre les communautés locales dans une zone où les tensions sont récurrentes. Le président du gouvernement régional de Gambela se veut rassurant. En discutant avec lui, on comprend à demi-mot que désormais, plus personne n'aura le droit de s'installer à proximité du fleuve, mais que rien non plus n'est vraiment arrêté sur la question. Les avantages concédés aux investisseurs étrangers ne manquent pas. Alors que gagne l'Éthiopie en échange ? Nous avons posé la question à Esaias Kebede du ministère de l'Agriculture.
C'est la globalisation. Regardez en Éthiopie, il y a 10 ou 20 ans, il n'y avait pas de floriculture. Mais maintenant, c'est un véritable succès. Il y a 10 ou 20 ans, il n'y avait pas d'exportation de légumes, sauf vers Djibouti. Maintenant, l'Éthiopie exporte des légumes et des fruits vers le Moyen-Orient et d'autres pays. Donc, grâce aux investisseurs étrangers, il y a un transfert de technologie, et pas seulement par le biais des tracteurs. Il y a aussi les débouchés en termes d'emploi. L'autre avantage, c'est l'ouverture sur le marché. Les investisseurs étrangers connaissent le marché mondial et peuvent aisément le pénétrer. C'est donc aussi une opportunité pour le pays. C'est important pour la croissance de notre économie.
for our growth of economy.
Les investisseurs étrangers ne paient généralement pas mieux que les Éthiopiens. Moins d'un euro la journée, un peu plus pour les paysans qualifiés. Quant au transfert de technologie, certains experts doutent qu'il profite réellement aux paysans. D'ailleurs, que sont devenus ces fermiers et ces éleveurs qui occupaient ces champs et ces pâturages avant qu'ils ne soient loués ? Le problème ne se pose pas, assurent les autorités. Esaias Kebede.
You know, totally we have 111.5 million hectares of land.
Vous savez, nous avons au total 111,5 millions d'hectares de terre. 74,5 millions d'hectares sont adaptés à l'agriculture et seulement 15 millions sont cultivés. Donc, nous avons une énorme quantité de terre. Pourquoi devrait-on déplacer des gens ? Nous avons des terres vierges. On donnera donc cette terre aux investisseurs.
Il n'y avait donc personne sur les terrains donnés aux investisseurs ?
Oui, c'est ça. Il n'y a aucun investisseur qui a pris la terre des paysans.
Même avec une contrepartie ou alors une embauche en échange ?
Oui, nous n'avons donné aux investisseurs aucune parcelle qui appartenait aux fermiers.
Autour de la capitale, en tout cas, plusieurs témoignages font état de la présence de fermiers sur les terres avant qu'elles ne soient attribuées à un étranger. Près de Holeta, à 40 km de la capitale, plusieurs patrons affirment avoir payé pour leur indemnisation. C'est le cas de Stéphane Mautier, fondateur de Gallica Flowers, une petite entreprise de production de roses de luxe.
Sur les 20 hectares qui nous ont été alloués par l'État, il y avait 3 hectares qui étaient cultivés par 2 fermiers. Il y a quelques années, l'État compensait eux-mêmes les fermiers. Mais ça, ça a dû changer probablement juste au moment où nous sommes arrivés, parce qu'on n'a pas été prévenu qu'il fallait qu'on paye une compensation aux fermiers pour ces 3 hectares. Donc, après avoir signé, 6 mois après avoir signé le bail, on nous a avisé qu'il fallait payer une somme assez conséquente pour ces 3 hectares.
Payer aux fermiers ?
On a payé l'État. Et l'État y a payé les fermiers. Et ça, on a pu le vérifier, puisque les fermiers qui avaient leur terrain avec nous, nous ont dit qu'ils ont reçu l'intégralité de la somme que nous avions payée. C'était assez joyeux, d'ailleurs, parce que la somme était, pour ici, vraiment très, très, très importante.
Dans d'autres régions, les paysans ne sont apparemment pas aussi enthousiastes. Dessalène Ramato.
Dans certaines régions, je n'y suis pas allé moi-même, il y a eu très peu d'articles de presse sur le sujet, mais selon des sources non confirmées, j'ai compris que les gens protestaient. Dans certaines zones, même les autorités locales, au niveau des Kébélés, n'apprécient pas l'arrivée de ces investisseurs. La décision leur a été imposée d'en haut, de la part du gouvernement fédéral ou régional, sans concertation avec le gouvernement local au niveau des Kébélés et des districts, sans concertation avec les communautés elles-mêmes.
La production de ces investisseurs étrangers profitera-t-elle au marché local ? Est-elle une solution à l'insécurité alimentaire chronique qui touche l'Éthiopie ? Ou alors a-t-elle vocation à être exportée ? Le groupe Karuturi affirme vouloir en priorité alimenter le marché local. Omodo Bangolom, le président du gouvernement régional de Gambela, lui, ne l'entend pas de cette oreille.
Well, our policy is very clear.
Notre politique est très claire. On soutient les investisseurs qui ont l'intention d'exporter leurs produits, c'est-à-dire qu'on regarde si ce qu'ils produisent peuvent être vendus sur le marché international. Nous ne sommes pas inquiets en ce qui concerne le marché local, car les paysans éthiopiens peuvent fournir la production, peuvent alimenter le marché national.
Donc ce n'est pas important pour vous qu'ils vendent sur le marché local ?
Eh bien d'abord, on ne peut pas leur permettre de cultiver un produit qui ne pourrait être vendu que sur le marché local. Parce qu'en ce moment, notre priorité, c'est d'avoir des devises et d'améliorer la croissance économique. Donc à partir du moment où on étudie leur dossier, on regarde leur business plan et leur cible. Si leur cible correspond à la politique du gouvernement, on peut leur donner de la terre qui peut être utile pour eux et pour la nation entière.
Les exportations sont donc importantes pour vous?
Très importantes. C'est la politique du gouvernement qui est maintenant en vigueur dans le pays.
Sur la question des exportations, le discours des autorités et celui de l'investisseur indien sont diamétralement opposés. Comme d'autres points, cette question-là ne semble pas être tranchée dans les contrats. Terre éthiopienne à louer, un grand reportage de Marie-Pierre Olfan, réalisé par Marc Minatel.
Marie-Pierre qui vient de nous rejoindre dans ce studio, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors vous avez rencontré pour ce reportage des investisseurs indiens, vous nous parlez également des Saoudiens, ils sont vraiment nombreux sur place?
Bah écoutez, au départ il n'y avait que deux ou trois étrangers, ça c'était à la fin des années 90 et ils étaient venus pour la culture de fleurs, pour la floriculture. Mais ces 10 dernières années, effectivement le phénomène a vraiment pris un tournant et au total 2000 projets ont atterri sur les bureaux du ministère de l'Agriculture, ce qui fait ces derniers temps une moyenne de 300 par an. 300 candidats, investisseurs étrangers. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous acceptés. Seulement 20% seraient validés selon les autorités qui disent sélectionner les entreprises sur leur sérieux et sur la qualité du projet. Alors au final, ça fait combien de terres qui ont été attribuées en Éthiopie? Il n'y a pas de chiffre officiel sur ce sujet. On parle de 500 000 hectares à 2 millions d'hectares. Les autorités assurent qu'il y a dans le pays, encore plus de 60 millions d'hectares de terres arables qui ne sont pas exploitées et qui donc pourraient être petit à petit confiées à des investisseurs.
Des terres inexploitées alors que l'Éthiopie pourtant est un pays avec une forte population rurale, Marie-Pierre.
Oui, alors l'Éthiopie, il faut le savoir, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et 85% des habitants vivent hors des villes, ce qui est effectivement considérable. Alors il y a donc beaucoup de paysans, ils ne possèdent par contre généralement que de petites parcelles entre un demi-hectare et un hectare qu'ils cultivent avec des animaux de trait, des charrues, avec un outillage rudimentaire et donc une productivité au final très faible. Résultat, le pays est toujours tributaire de l'aide alimentaire. Le gouvernement a demandé d'ailleurs à l'automne dernier 159 000 tonnes d'aide. C'est donc un pays où l'on ne manque pas de paysans, mais où le secteur agricole n'est clairement pas assez performant pour répondre aux besoins de la population et où le choix donc a été fait, vous l'avez vu dans le reportage, de confier des terres à des étrangers qui feront rentrer des devises. C'est donc un choix de développement, disent les uns, et notamment les autorités. Les autres parlent d'accaparement de terres. C'est toute la question et c'est l'avenir peut-être qui nous dira qui a raison dans cette affaire.
Alors vous, vous êtes intéressé à l'Éthiopie, mais la ruée des investisseurs étrangers concerne également beaucoup d'autres pays.
Oui, beaucoup de pays africains, notamment parce que la main-d'œuvre n'y est pas très chère et la terre non plus. Alors les pays les plus offensifs sont l'Arabie Saoudite et les Émirats qui, eux, ont une prédilection pour le Soudan, pour l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya et même l'Ouganda. La Chine, elle aussi, on la retrouve en Ouganda où elle exploite déjà quelques milliers d'hectares avec une spécificité, elle fait venir ses travailleurs et ses propres semences. Les Libyens ont des visées au Libéria pour produire du riz, des contrats sont en discussion. On sait que Djibouti, par exemple, cherche de son côté des terres au Malawi et on parle aussi de plus en plus des terres en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal, qui seraient convoitées par certains pays. Alors il faut dire que ce phénomène a surtout été médiatisé récemment à Madagascar, où au moment où on était en pleine crise alimentaire, le groupe sud-coréen Daewoo a cherché à obtenir plus d'un million d'hectares. C'était en 2008 et ce projet colossal a été vécu sur place comme un scandale, vivement combattu et finalement il a été retiré quelques mois plus tard.
Merci beaucoup Marie-Pierre Olfan. Grand reportage en Éthiopie, c'est à retrouver à tout instant sur le site internet d'RFI, www.rfi.fr. Demain, grand reportage sera en Pologne avec Piotr Moszynski.